Bonjour, moi c'est Martin Guèze, bienvenue dans Podcan, le podcast de la Cannes sur RFI. Votre guide, votre manuel pour tout savoir sur la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition qu'on suivra évidemment sur la radio du monde. Dans ce troisième épisode, on va décrypter le groupe C en compagnie d'Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo.
Bonjour Martin, ravi de vous retrouver.
Et ravi aussi de retrouver Patrick Julliard. Bonjour Patrick.
Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, direction Yaoundé. Pour ce groupe, c'est l'un des plus alléchants. On va gravir des montagnes avec les Lions de l'Atlas du Maroc, admirer les étoiles, les Black Stars du Ghana, affronter des grands fauves, les Panthères du Gabon. Mais messieurs, honneur aux petits poussés. On va commencer avec un poisson préhistorique sorti des abysses, les sélacanthes des Comores, restés endormis jusqu'au fond de l'océan jusqu'ici, mais qui vont participer à leur toute première CAN. Patrick, Hugo, qu'est-ce que ça vous inspire, ce petit poisson qui frétille, ce petit poussé qu'on retrouve enfin à la Coupe d'Afrique des Nations?
C'est forcément très excitant parce que tout simplement, c'est une histoire qui a commencé vraiment en toute fin de Radio Foot, si je puis dire, sur les antennes de RFI, racontée par notre ami Franck Simon. On n'avait pas forcément prêté plus d'attention que cela à la renaissance des Comores, une équipe qui avait vraiment disparu de la circulation pendant un temps. Et on l'a vu grandir, cette équipe, le poisson, le sélacanthe s'est multiplié finalement dans l'océan, et on a vu cette formation vraiment, parce que c'est presque une équipe de club, une famille.
Une famille marseillaise,
effectivement. Il y a aussi quelque chose de très France du Sud dans cette équipe des Comores. Et on a vu vraiment cette histoire grandir, prendre de plus en plus d'importance. On a vu les Comores embêter le Cameroun pour les éliminatoires de la CAN 2019. Et enfin, quelque part, la conclusion, le point d'orgue de leur très beau parcours. Et encore, j'espère que ce n'est pas le point d'orgue pour eux. J'espère qu'il y a encore d'autres choses, d'autres pages à écrire. Mais c'est l'aboutissement, en tout cas, d'un très beau cycle qu'on a suivi sur RFI, que vous avez suivi en particulier, Martin Guèze. Vous leur avez consacré votre grand reportage consacré aux Comores et à leur qualification pour la CAN. Donc on est vraiment dans une belle histoire, hein. L'expression est un petit peu cliché, mais là pour le coup elle n'est pas galvaudée, je pense qu'on peut dire ça pour les Comores. Et on avait vu, j'avais eu l'occasion de suivre Madagascar lors de la précédente CAN, et déjà une belle histoire venue de l'océan Indien,
des belles îles dans l'océan Indien.
Exactement, on sait un peu le potentiel de ce type d'équipe dans des CAN, dans un football africain où le talent est parfois un peu gâché par des organisations brouillonnes. Je ne vise personne en particulier, mais les grandes nations ne sont pas toujours au rendez-vous, quand bien même elles ont l'expérience et les grands joueurs. Et parfois, les petites nations, entre guillemets, peuvent tirer leur épingle du jeu quand elles sont cohérentes. Et c'est le cas, me semble-t-il, des Comores, mais on va en parler davantage.
Patrick, vous partagez l'enthousiasme d'Hugo autour de cet archipel?
Absolument, absolument. Je trouve que Amir Abdou a fait un travail remarquable. Il continue, même s'il est aujourd'hui également entraîneur de club en Mauritanie, au FC Nouadhibou. C'est une expérience.
Il a grandi en parallèle de sa sélection, quelque part.
Exactement. Ouais. Et je trouve que, aujourd'hui, c'est un groupe entier qui en bénéficie. Il y a un très gros travail de détection des talents binationaux. Effectivement, on pense tout de suite à Marseille, puisque beaucoup des Comoriens de la diaspora sont dans la région marseillaise ou à Marseille même.
On estime à près de 100 000 la diaspora comorienne.
C'est presque une deuxième équipe de l'OM, cette équipe des Comores.
Il y a aussi des joueurs issus de la région parisienne, des joueurs que le staff des Comores est allé chercher parfois en national 1 ou 2 en France, parfois aux Pays-Bas. Je pense au latéral gauche Saad Bakary notamment. Il y a un vrai travail de détection, et puis je trouve que Amir Abdou réussit parce qu'aussi il n'oublie aucune des composantes de l'archipel dans le choix de ses joueurs et de son staff. Il y a non seulement la Grande Comore qui est la principale île, mais il y a aussi
Anjouan, la
capitale. Il y a aussi Anjouan et Moélie, et les joueurs de ces petites îles de l'archipel ne sont pas oubliées non plus, et tout ça est très bien pensé et très bien fait.
Et messieurs, il y a une quatrième île historique des Comores, c'est Mayotte, désormais département français, mais qui, dans la grande histoire des Comores, était rattachée avant l'indépendance en 75 aux Comores. Et il y a un homme qui est né là-bas, il s'appelle Ben El Fardou. C'est peut-être la plus grande star de cette équipe. Il est l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, le meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat serbe, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection comorienne, certes une histoire assez récente, hein, une équipe affiliée à la FIFA dans les années 2000 qui a commencé par complètement disparaître avant de réapparaître donc en En 2014, il était là, Benel Fardou, et il mesure, il nous a laissé un petit message sur la boîte vocale de Podcon, il mesure tout le chemin parcouru par ce petit pays.
Bonjour, je m'appelle El Fardou Ben Mohamed, attaquant des Comores. Petit message pour RFI, c'est un groupe très relevé, mais voilà, nous, en tant que petit poussé, on va juste profiter de ce groupe-là et on va jouer contre des grandes nations et de très très bons joueurs. Ben, on connaît tous le Ghana, c'est une très grande nation du football africain, donc ils ont toujours eu des joueurs assez importants offensivement. Le Gabon, voilà, en plus, je joue avec mon équipé de club qui est gabonais, Gaylor Kanga, et après bien sûr ils ont devant, ils ont Aubameyang et Denis Bouanga, ils ont de quoi faire. Ben, le Maroc, c'est juste énorme ce qu'ils font, et ils arrivent à gagner leur match par 3-4 buts à chaque fois, donc ça va être compliqué, mais comme j'ai dit auparavant, nous on n'a rien à perdre et faire de notre mieux.
Ben Fardou, c'est ainsi qu'on l'appellera sur les antennes de RFI. Donc, vous l'avez dit, qui a marqué l'histoire de l'Étoile Rouge de Belgrade, quand même un club qui a gagné la Ligue des Champions dans son histoire. Ce n'est pas tout à fait rien qu'on a vu en Ligue des Champions, notamment contre le Paris Saint-Germain il y a quelques temps. Pas mal de joueurs qu'on avait aperçus en Ligue 1, parfois des joueurs peut-être un peu revanchards. Du côté des Comores, c'est peut-être aussi une des clés de l'esprit qui peut animer cette équipe.
Exactement, Ben El Fardou qui est donc né à Mayotte, il a été formé après au Havre avant de partir sous d'autres cieux, mais vous le disiez, beaucoup de joueurs qui sont passés la Ligue 1 ou la Ligue 2 hein, d'ailleurs, le plus grand.
Sans forcément jouer les tout premiers rôles.
Exactement, on va dire que les deux joueurs de référence pendant des années, c'était Kassim Abdallah qui a joué latéral à l'Olympique de Marseille, et Ali Hamada, le gardien de cette sélection qui a été le portier du TFC, le club de Toulouse, avec lequel il avait marqué un improbable but de la tête. Tout le monde avait un petit peu gardé ça.
Oui, avant d'être Monsieur Boulette en Ligue 1. Quelqu'un qui a eu un passage à vide très long dans son histoire.
Mais effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par des clubs de Ligue 2. On pense en ce moment, il y a Youssouf Chamgama qui est un très bon joueur, mais qui joue à Guingamp, qui n'a jamais trop passé le
excellent tireur de coup de pied arrêté.
Exactement, de coup franc, c'est assez beau ce qu'il propose. On a d'autres, Faïs Souleymani, enfin des joueurs qui sont plutôt passés par Guingamp, Grenoble, Niort.
Souleymani qui réussit bien en Belgique maintenant, mais qui effectivement qui a joué à Lorient, entre autres.
Et qui est un des piliers de l'attaque. On va dire que ce trio, Shangama, Selemani et Ben El Fardou, ça va un petit peu envoyer, entre guillemets, ça joue plutôt bien, ça combine, c'est technique et ça marque des buts.
Exactement, il y a une touche technique, une touche très, presque, j'allais dire football des rues, mais c'est un petit peu dur, mais c'est un peu ça. Et à part ça, il y a maintenant de l'expérience dans cette sélection, puisqu'il faut rappeler qu'ils ne jouaient pas, enfin les Comores ont été éliminés lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, ils ne jouaient donc pas les poules, et pendant ce temps-là, lors des sessions FIFA de septembre, octobre, novembre, ils ont joué des matchs amicaux contre des adversaires également dispensés de ces éliminatoires, dont le Burundi, la Sierra Leone, les Seychelles, et ils les ont tous remportés. Donc c'est une équipe qui bosse bien avec un esprit club, un esprit famille. Je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Maintenant, l'inexpérience peut aussi jouer des mauvais tours. La non-connaissance des grands tournois peut jouer des mauvais tours. Il faudra que le staff sache y faire face éventuellement.
Et c'est une équipe qui a beaucoup bénéficié d'un gros soutien populaire à Moroni, qui a pris très peu de buts, qui a très bien défendu au moins à la maison. Et Hugo, tout ça, ça part de 2014, ça part d'un match un petit peu fondateur. À l'époque, Amir Abdou arrive justement sur le banc des Comores, récupère cette sélection. Il n'y avait pas grand-chose, il fallait absolument tout refaire. Et ça se passe à Martigues, en banlieue de Marseille. Marseille d'où viennent énormément de ces joueurs comoriens.
Et quelques jours plus tard, un certain Franck Simon, tonton Francky, notre ami Francky, une sorte de saint patron de ce podcast, nous en parle dans Radio Foot. Vraiment, il lève la main en fin d'émission. Attendez, est-ce que j'ai quelques secondes pour vous parler des Comores? Alors, on est tous un petit peu interloqués. Les Comores, oui, bon, si vous voulez. Qui joue contre le Burkina Faso? Qui viennent de jouer un match amical contre le Burkina Faso, qui à l'époque est, s'il vous plaît, vice-champion d'Afrique en titre. Et il nous parle de cette équipe qui vit tout simplement une résurrection, une renaissance, qui a cessé d'exister et qui a été remise sur pied, vous l'avez dit, par Amir Abdou, le sélectionneur, et Ben Amir Saadi, qui était directeur sportif. Et on prête attention, on écoute Franck Simon, parce que c'est Franck Simon et qui raconte très bien. Et on n'était pas encore tout à fait conscient de l'ampleur qu'allait prendre cette histoire, la manière dont elle allait se développer, grandir. Hein, je vous en parlais, cette belle histoire. Et le début, raconté par Franck Simon, il était déjà très, très, très prometteur.
Un public uniquement composé de Comoriens venus, évidemment, de Marseille.
Donc juste à côté
de Martigues et de la région parisienne. La radio comorienne du coin qui fait le commentaire, qui a pris l'antenne je sais combien d'heures avant, en Chicomori. La présence de Roff, bon, il y a quand même deux rappeurs importants, hein. Il y a Soprano et il y a Roff. Roff était aussi sponsor pour l'équipe nationale, il les aidait avec du matériel et tout. Et j'avais réussi à lui parler un petit peu avant le coup d'envoi. Et puis après sur le terrain. Alors là, j'en ai pris plein la figure parce que l'équipe qui joue au ballon, c'était pas le Burkina Faso de Charles Caboret, hein, qui était venu en voisin, parce qu'à l'époque, il était à Marseille. C'était les Sélacantes, qui jouaient au foot, qui jouaient bien, qui se créaient des occasions, etc. Alors, ils avaient pris un pénalty assez rapidement. En tout début de seconde période, ils égalisent. Et je me suis régalé à voir cette équipe. Voilà. Et surtout, un garçon qu'on a tous appris à connaître, hein, qui est Elfardou Ben Nabouane. Et le truc qui m'est resté en tête, c'est dans le temps additionnel, il a le ballon de 2-1. Il a la balle de 2-1. Le stade s'est levé comme un seul homme, parce qu'on a tous cru qu'ils allaient faire tomber le vice-champion d'Afrique. C'est ça quand même, les étalons du Burkina à l'époque. Bon, malheureusement, ils ne marquent pas. Et derrière, cette communion avec le public, etc. Enfin, un truc. Et dans les vestiaires, la joie, le partage. Ça a été ça, Martigues. Et après ça, je me souviens, j'avais dit au coach, tu sais, Amir, vous allez jouer la Coupe d'Afrique des Nations, je ne sais pas quand, hein, mais vous allez jouer. Vu ce que vous nous avez montré là, je suis persuadé. Et il m'a dit que Dieu t'entende et il a fini par les qualifier.
On l'a entendu, Amir Abdou, on l'a entendu. Franck Simon, cette équipe donc constituée de beaucoup de joueurs issus de la diaspora, on l'a dit. Quelques joueurs aussi qui sont nés sur l'île, qui ont joué pour le Volcan, notamment de Moroni. On pense à un joueur qui s'appelle Djoudja, qui avait suivi Amir Abdou à Nouadhibou en Mauritanie, qui joue désormais en Afrique du Sud. Patrick, ils avaient déjà failli se qualifier pour la précédente édition qui se déroulait en Égypte. Ça s'était joué à un recours du tribunal arbitral du sport, quelque chose d'assez classique dans le football africain.
Oui, voilà, le recours n'avait pas été accepté en quelque sorte. Mais c'est vrai que c'est pas un hasard, c'est pas ce qu'on appelle un one shot. Cette qualification, c'est le fruit d'un long travail débuté, comme nous le rappelait Franck, en 2014. Et c'est une vraie récompense. Et on espère que c'est pas un aboutissement absolu, que c'est juste une étape et que peut-être qu'ils peuvent encore construire sur cette qualification. Et donc, ça commence par réussir un bon parcours dans ce groupe qui est assez difficile, mais ils doivent y aller sans complexe et croire en leur chance.
Et certes, ils ont bénéficié de cette CAN à 24 pour se qualifier, mais ils sont passés dans un groupe, pour une CAN à 24 certes, mais dans un groupe assez relevé. Ils terminent derrière l'Égypte, mais ils finissent devant le Togo et ils finissent surtout devant le Kenya. Une victoire 2-1 à Moroni qui a été vraiment la victoire de base pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique.
Et lors des qualifications pour la CAN 2019, il me semble que le Cameroun était un petit peu partie prenante de l'imbroglio qui les avait empêchés d'aller en Égypte. Donc peut-être un sentiment de revanche, en tout cas un clin d'œil du destin de vivre cette première CAN sur les terres camerounaises. Mais on l'a dit, pour les Comoriens, le baptême sera un baptême du feu, car il n'y a entre guillemets que des gros avec eux. En tout cas, deux nations qui font figure d'ogre à défaut d'être vraiment favorite pour la victoire finale, encore que le Maroc paraît très redoutable, le Ghana peut souvent être au rendez-vous, mais peut-être Martin qu'on peut parler du Gabon. Je parlais tout à l'heure de ces sélections qui ont du talent à revendre et de la désorganisation pour être sûr que ce talent ne soit pas forcément exploité à sa juste mesure. On fait difficilement meilleur exemple que le Gabon en ce moment, emmené notamment par Pierre-Emerick Aubameyang, l'un des meilleurs attaquants d'Afrique, et voire du monde, voire de Première Ligue en tout cas, mais qui n'offre pas forcément beaucoup de garanties.
Et vous faites bien de parler, parce que Comores-Gabon, ce sera le premier match des Comores et du Gabon dans cette poule, ce sera la première journée, tandis que le Maroc affrontera le Ghana. Patrick, le Gabon, vous partagez les doutes d'Hugo Moissonnier sur cette équipe qui a de très bons joueurs, mais qui a parfois du mal à s'organiser?
D'organisation, je ne sais pas, parce que je trouve que c'est relativement carré si on parle de l'équipe en elle-même, mais il y a beaucoup par contre d'interférences autour de l'équipe. Il y a beaucoup de contestations. On l'a vu lors des rassemblements pour la session FIFA de novembre, une manifestation pacifique de membres du syndicat des footballeurs gabonais qui voulaient rentrer dans le camp de base des Panthères pour leur faire partager des revendications, parce que le championnat national gabonais était à l'arrêt depuis 2 ans.
800 joueurs au chômage.
Ces joueurs-là, menés par Stéphane Guéma, qui est un ancien international, qui avait fait la CAN 2012, ont été interpellés. Didier Ndong s'est solidarisé avec eux et a refusé de jouer. Donc, il y a des interférences, il y a des clans dans cette équipe. On avait vu Pierre-Emerick Aubameyang un petit peu gêné pour commenter la situation en conférence de presse et prendre ça avec ce qui avait été perçu comme un détachement un peu désinvolte par certains Gabonais. Donc, ouais, il n'y a pas une grande unité autour de cette équipe. Après, c'est pas tant l'organisation le problème que le manque d'unité, moi, je dirais. Ce sera peut-être la dernière campagne de cette génération dorée, la génération des Ekwele Manga, la génération des Gaylor Kanga, des Aubameyang.
Alors, génération dorée, faut le dire vite, ou entre guillemets, parce qu'il y a donc cette CAN à moitié à domicile en 2012 qui est plutôt réussi,
un quart de finale sorti au tir au but par le Mali, ce qui est pas humiliant.
Le Mali qui terminera sur le podium, voilà. Donc rien d'infamant, sauf que derrière ce sera un peu plus compliqué. On pense notamment à la CAN à domicile. Alors à domicile, c'est pas comme si elle avait été préparée des années en avance. Le Gabon avait récupéré l'organisation finalement assez tardivement, mais c'était une CAN à domicile qui avait été très mal négociée par les Panthères.
En 2017, une sortie dès le
2017. Pardon, une élimination dès le premier tour et une victoire du voisin camerounais, une équipe finalement.
Une équipe assez stérile et pas très belle à voir jouer.
Tenue en échec dès le premier match contre une modeste Guinée-Bissau.
Donc c'était le tout premier match de l'histoire en phase finale. Donc oui, ça faisait un petit peu tâche et les Panthères n'avaient pas su se remettre de cet échec. En plus,
absence de la CAN 2019, juste fini là-dessus. Oui. La première CAN à 24 et le Gabon, ça fait un
arrive à ne pas y aller.
Ne fait pas partie des 24 meilleures équipes du continent en ce moment-là.
Et donc, ça a marqué la fin du cycle Camacho, le précédent sélectionneur, l'espagnol. Et le Gabon a nommé un Français qui connaît peut-être mieux les joueurs francophones et gabonais en particulier, Patrice Neveu. On a vu du mieux dans la cohérence globale de l'équipe, mais les résultats sont toujours un petit peu déliquescents. Alors le Gabon s'est qualifié dans un groupe en sortant derrière la Gambie, enfin avec la Gambie, en sortant la RDC et l'Angola, ce qui est plutôt pas mal, puisque a priori c'est plutôt...
Exactement, juste pour le camp des bonnes nouvelles, comme vous le disiez Patrick, il termine derrière la Gambie, ce qui fait peut-être un petit peu tâche, puisque la Gambie est un petit pays qui se qualifie pour la première fois. On en parlera dans un autre épisode de Podcan, mais le match référence c'est peut-être bien celui-là, cette victoire 3-0 devant la RDC, avec des buts du trio redouté, on va dire. Il n'a pas toujours été redoutable, mais le trio d'attaque, Boupenza, Bouanga, Aubameyang, ils avaient tous marqué contre la RDC. Ils avaient gagné 3-0. C'est peut-être là-dessus qu'il faut s'appuyer pour construire.
Bonjour la famille. Mon équipe, c'est les Panthères du Gabon. Notre équipe, cette fois-ci, vont faire une bonne CAN. Et ils vont nous ramener la coupe ici à Libreville. On doit danser. Et Denis Bouanga et son trio Aubameyang Boupenza vont nous amener la CAN 2017. Le Cameroun a pris notre CAN et ils vont nous rendre ça.
Comme je le disais, il y a beaucoup d'interférences autour de l'équipe. On avait eu l'épisode Gaylor Kanga où la RDC avait déposé un recours contre le Gabon, arguant que Gaylor Kanga usurpait son âge et son identité et qu'il était réellement congolais. Mais cette requête n'était pas basée sur des données solide et intangible, donc elle avait été rejetée. Mais tout ça, ça fait beaucoup pour une seule équipe et j'ai peur que ça soit un petit peu trop, qu'il soit pas dans un état de sérénité requis pour bien préparer une grande compétition, sachant qu'il y a un peu une perte de confiance dans le sélectionneur avec les mauvais résultats en poule éliminatoire du mondial. Donc ils sont pas sur une très bonne dynamique.
Si raté que ça, ces éliminatoires du mondial, l'Égypte n'a pas forcément survolé la poule comme on l'attendait.
Justement, le Gabon aurait dû embêter l'Égypte plus longtemps. L'Égypte, effectivement, était mal partie. Ils ont même changé de sélectionneur en cours d'éliminatoire. Et pourtant, le Gabon, oui, peut s'en vouloir. Et le Gabon aurait pu mener contre et battre l'Égypte et ils se font rejoindre bêtement sur une erreur défensive invraisemblable. Oui, donc il n'y a pas une sécurité folle dans cette équipe, je trouve. C'est un peu... Ça peut basculer du bon comme du mauvais côté, mais on ne sent pas une solidité à toute épreuve.
Et le malheur du Gabon, c'est peut-être de se retrouver dans un groupe C aussi relevé à Yaoundé, avant de terminer peut-être par le favori marocain. Nos regards vont se tourner vers les Black Stars du Ghana. Je ne sais pas si ce sont des étoiles filantes, ce sont des étoiles très lumineuses, mais ce sont un peu des vieilles étoiles, des planètes qui sont là depuis très longtemps. Les Ghanéens, c'est un effectif qu'on connaît bien, qu'on connaît même très bien. Depuis les débuts des années 2010, on retrouve un petit peu une même base, même s'il y a eu quelques changements, évidemment. On retrouve les frères Ayou.
Il y a une certaine nostalgie de la première partie des années 2010 qui se dégage de ce plateau de cette CAN. Et le Ghana y participe, puisque le Ghana a quand même été peut-être la grande équipe africaine du début des années 2010.
Celle qui a failli toucher
le Grand Poulie d'Or, en tout cas,
les demi-finales des 2010. Coupe du Monde.
Voilà, quart de finaliste archi malheureux de la Coupe du Monde en 2010.
Finaliste de la CAN cette
de
même
la
année.
CAN en 2010, finaliste de la CAN en 2015.
Battu au tir au but lors d'une séance épique par la Côte d'Ivoire.
Toujours bien placé, demi-finale également en 2013.
Exact. 2017, il termine quatrième.
2017 également, battu lors du match pour la troisième place par le Burkina Faso. Donc cette génération, Assamoah Gyan, Frère Ayou, Boy, Abdul Razak, elle a souvent été placée rarement gagnante.
Alors il y a tout de même un peu de changement dans l'équipe parce que des talents émergent, mais il sera peut-être un peu tôt pour qu'ils en recueillent les fruits dès cette phase finale, mais des talents émergent. Mohamed Kudus de l'Ajax Amsterdam, qui est une sorte de milieu offensif axial très polyvalent, capable de beaucoup marquer et faire marquer. Kamaldine Soulemana au Stade Rennais, joueur dribbleur
dynamique,
remarquable, enfin capable de faire de grosses différences sur un côté par sa percussion et pas maladroit à la finition, ce qui ne gâte rien. Ils ont intégré des binationaux, dont Alexander Djikou de Strasbourg, qui est un très bon défenseur central. Donc, ça fait quand même une équipe en partiel renouvellement, mais vous avez raison, l'ossature, les hommes de base sont des vieux briscards, les frères Ayou, qui ne sont plus des jeunes joueurs, qui maintenant sont plutôt des joueurs très expérimentés. Thomas Partey, qui s'est affirmé de club en club comme l'un des meilleurs milieux de terrain africains, c'est un peu la pierre angulaire du milieu de terrain. Et Moubarak Wakasso qui est toujours là pour souvent faire un peu les utilités et de par sa polyvalence et sa qualité à plusieurs postes. Donc ça fait beaucoup. Il y a Daniel Amarté aussi qui peut jouer à plusieurs postes, notamment en défense centrale, qui a obtenu le fameux pénalty controversé qui a valu ensuite le but qualificatif pour les barrages du Mondial qui seront joués après la CAN. Donc il y a une ossature, mais c'est une équipe qui est peut-être entre deux générations. Donc, est-ce que c'est très propice dans un grand tournoi? J'en suis pas sûr.
Et pour vous resituer tout de même, le Ghana à la CAN, c'est 4 victoires finales. Ça remonte un petit peu, hein, 1963, 1965, 1978, 1982. On a dit que l'histoire récente était marquée par de très bonnes performances. Un petit peu moins vrai en 2019, sorti sans gloire en huitième de finale au tir au but face à la Tunisie. Et pour ces qualifications, que ce soit la Coupe du Monde ou la CAN, ça n'a pas été facile. Ils finissent premier de leur groupe à chaque fois. Pour la CAN, ils terminent devant le Soudan et l'Afrique du Sud. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est sur un fil un petit peu cette équipe ghanéenne. Ça passe un peu à chaque fois, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
Bonjour, mon nom c'est Irénée, je suis au Cameroun. Mon équipe, c'est le Ghana. Mon joueur préféré, c'est André Ayou. Et que mon joueur préféré soit le meilleur buteur de cette compétition.
Eux, par contre, on sait à quoi s'attendre.
Les étoiles noires ont pâli.
Un petit peu, elles brillent un petit peu moins de mille feux. On va terminer par le grand favori de ce groupe. C'est difficile de le qualifier autrement. Le Maroc, victorieux à la CAN en 76, là aussi, ça remonte un petit peu. Mais dans ce qui montre, en tout cas, dernièrement, les Lions de l'Atlas, des victoires par 3, 4 buts d'écart. Ils prennent très peu de buts. Ça joue plutôt bien. Ça marque beaucoup. C'est votre favori aussi. Peut-être Patrick dans ce groupe, et puis j'irai peut-être même plus loin, c'est un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, je suis tout à fait d'accord. La dernière victoire du Maroc dans une CAN, c'était en 76, ça remonte, mais c'est une équipe qui est taillée et qui a les ambitions d'à chaque fois s'imposer, d'aller loin. En 2019, c'est le Bénin qui les avait sortis sur
un des plus grands exploits
de
la
finale
CAN
en réalisant un véritable exploit.
Ça avait marqué quand même un sacré coup d'arrêt parce que c'est une sélection qui a quand même un peu disparu de la circulation et que Hervé Renard a relevé donc avec cette qualification pour la CAN 2015 qui s'était conclue, la CAN 2017 pardon,
la CAN
qui
2017.
S'était conclue par un quart de finale en passant en battant au passage la Côte d'Ivoire dans un match décisif de poule. Derrière, il y avait la qualification pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde avait été quand même un petit pétard mouillé parce qu'il y avait eu beaucoup de déceptions et beaucoup de polémiques. Et puis, il y avait eu aussi cette perte de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 en préambule, puisque le Maroc était candidat et en préambule de cette Coupe du Monde, il n'avait pas obtenu l'organisation du tournoi. Et puis, en 2019, cette sortie de route face au Bénin inattendue. Donc, il y avait une remontée sous Hervé Renard, puis une longue redescente. Finalement, Vahid, est-ce qu'on est parti sur quelque chose d'autre avec lui? Parce qu'il s'est séparé aussi de pas mal de joueurs.
Vahid fait du Vahid, mais il le fait bien. Et il bénéficie en plus d'une bonne structuration du football marocain, même au niveau de la formation des joueurs locaux. Il fait du Vahid parce qu'il a exclu certains joueurs dits incontournables pour indiscipline ou manquement.
Pour rappeler les incontournables, c'est quand même...
C'est Ziyech, Mazraoui de l'Ajax, latéral droit, et Amin Harit. Excusé du peu, quelle équipe africaine pourrait se passer de talent pareil sans... en pâtir au niveau des résultats. Il termine les deux phases éliminatoires, celle de la CAN et celle de la Coupe du Monde, en encaissant à chaque fois un seul but, ce qui est quand même aussi le signe d'une solidité. Vous regardez l'effectif, les équipes alignées par Vahid, il y a pratiquement à tous les postes des joueurs qui jouent titulaires dans les cinq grands championnats européens. La seule exception, c'est Ilias Cher, le nouveau meneur de jeu qui lui joue en D2 anglaise à Queen's Park Rangers, mais la D2 anglaise est une des meilleures deuxième divisions du monde, sinon la meilleure. Et la nouvelle coqueluche, c'est Ryan Mahé, l'attaquant, qui joue à Ferencváros, qui lui a été la grande révélation des dernières éliminatoires Coupe du Monde, et qui est un joueur ailé, quoi, qui a... À chaque match, il invente un but qu'on n'avait pas vu avant. Enfin, il y a vraiment une dynamique très forte dans cette équipe. Et en plus, le Maroc est bien paré à deux postes où traditionnellement, c'était un peu les points faibles récurrents de la sélection. C'est le gardien de but. Il y a deux gardiens de niveau international. C'est Yassine Bounou et Mounir El-Kajoui qui jouent à Hatayspor en Turquie. Et puis, le poste d'avancante, il y en a deux aussi de très haut niveau. C'est En-Nesyri qui joue au FC Séville, comme Bounou. Formé au Maroc, d'ailleurs, c'est pas un binational. Et El Kabi, un autre joueur du cru, passé par la Renaissance sportive de Berkane, et qui joue lui aussi comme El Kajoui, c'est un des duos à Hatayspor en Turquie, qui marque but sur but.
Meilleur buteur de l'histoire du Chan.
Voilà, tout ça, ça fait pour moi un très sérieux candidat au titre. Il faudra simplement qu'il y ait un minimum d'ouverture, parce qu'on sait que Vahid Halilhodžić, en phase finale, fait parfois l'erreur de trop fermer son équipe. Et ça peut être un peu étouffant. Il faut qu'il apprenne peut-être de ses cannes passées, qu'il soit un peu plus décontracté, entre guillemets.
Vahid, qui est passé par le banc de l'Algérie, évidemment, l'épopée, entre guillemets, de 2014, la Coupe du Monde 2014 de l'Algérie, et cette sortie in extremis face à l'Allemagne en 8e, c'est lui, l'Algérie, peut-être un modèle à suivre pour le Maroc. Faut pas que je le dise trop fort si je veux pouvoir aller du côté du Maroc ou du côté de l'Algérie en vacances. Mais l'Algérie qui a enfin brisé une certaine malédiction, parce que c'est un peu le problème des équipes maghrébines, c'est qu'elles sont souvent attendues mais qu'elles gagnent finalement très peu au palmarès de la CAN. L'Algérie qui a soulevé pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique il y a 2 ans en Égypte, et qui a peut-être été un modèle à suivre pour un Maroc qui lui aussi a finalement un palmarès assez faible et souvent attendu et souvent décevant.
Vous avez raison, parce que les dernières, jusqu'alors, les victoires d'équipes maghrébines lors de phase finale de CAN, c'était toujours à domicile ou du moins au Maghreb. L'Algérie avait gagné en 90 chez elle, la Tunisie en 2004 chez elle, et le Maroc précédemment en 76, c'était également à domicile. L'Algérie, en gagnant, qui plus est en Égypte, qui n'est pas une terre très amie des Algériens...
Non, mais qui s'est avéré être un bon soutien sur la fin.
C'est vrai.
On avait misé plutôt du côté de l'équipe
mais
arabe.
Globalement, ça va peut-être briser une certaine incapacité, cette victoire, et ça peut donner des idées au Maroc. Sachant qu'en plus, espérons-le, mais si on en juge sur ce qu'on a vu... Jusqu'alors, les pelouses seront de bonne qualité au Maroc, au Cameroun. Donc, ça peut aussi être favorable à la pratique du jeu bien léché que le Maroc apprécie.
Moi, c'est vrai que je partage plutôt l'enthousiasme, au moins sur l'effectif de Patrick, puisque je trouve qu'il n'y a pas beaucoup mieux en fait sur le continent, puisqu'à toutes les lignes, on retrouve des joueurs majeurs, même en défense centrale. Naïf Aguerd, Romain Saïs, Amrabat au milieu. On peut se permettre d'avoir
Hakimi sur les côtés.
Hakimi,
Mazina qui joue titulaire à Watford en Première Ligue. Enfin, c'est du très costaud. Bah, hein.
On se permet d'avoir Sofiane Boufal et Mounir El Haddadi sur le banc, effectivement. Et on se passe de trois joueurs majeurs, au moins sur le papier, même si je comprends vos réticences, Hugo.
Si Podcast avait existé sur les 20 dernières cannes, on aurait eu exactement les mêmes propos à deux mois. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on a souvent beaucoup d'attentes sur les équipes maghrébines. Le palmarès n'est pas toujours très, très éloquent. Symboliquement, pour le Maroc, dont on a beaucoup évoqué l'importance dans les instances, dans les coulisses du foot africain, ce serait l'occasion de mettre en place une domination sportive sur les pelouses.
Mais ça montrait plutôt une bonne santé du football marocain local. Avant de terminer, messieurs, et de se donner au petit jeu des pronostics, on va rappeler le calendrier. Le Maroc qui commence contre le Ghana pendant que les Comores jouent le Gabon. Derrière, Maroc-Comores, un petit peu le choc des extrêmes, et Gabon-Ghana dans le même temps. On termine par le Ghana face aux Comores et le Gabon contre le Maroc. Qui vous voyez de sortir de ce groupe? Qui vous voyez finir deuxième et peut-être troisième? Le Maroc sans trop de problèmes, vous pensez, Patrick, ou ils vont être un peu embêtés?
Moi, je pense que le Maroc a les moyens de maîtriser cette poule. Ensuite, je miserai tout de même sur l'expérience du Ghana. Et puis, la surprise pourrait venir des Comores qui, à mon avis, ont les moyens de se glisser dans les meilleurs troisièmes.
Donc un peu mieux les Comores que le Gabon.
Oui,
plutôt. Est-ce que vous partagez cet avis, Hugo Massonnier?
Alors, c'est très intéressant parce que finalement, ce groupe, il est plein de dynamiques possibles, hyper intéressantes. Moi, effectivement, je miserais quand même sur l'esprit revanchard et l'expérience du Ghana. On se souvient de la Côte d'Ivoire qui finalement gagne la CAN l'année où elle se présente peut-être dans sa génération dorée avec l'une des équipes les moins séduisantes. Et parfois, vous êtes animé par un esprit justement qui vous fait dire que c'est la dernière, alors qu'il faut pas se rater. On se souvient des larmes d'André Ayew en 2015. Et on sait à quel point André Ayew, alors même si on l'a plus vu au niveau européen depuis quelques saisons, on sait qu'un André Ayew peut être un guerrier. Donc moi, le Ghana, en tout cas parmi les deux qualifiés, je le vois bien. Le Maroc, moi, j'ai des doutes. Il faudra confirmer. Je pense qu'il y a beaucoup de promesses, mais elles se confirment toujours difficilement dans les grandes compétitions et particulièrement en Afrique. Mais on peut dire que le Maroc et le Ghana sont bien partis pour les deux premières places. Le Gabon, c'est tout l'un ou tout l'autre. Pour l'instant, ça a plutôt été tout l'autre. Et c'est vrai que j'ai plutôt envie de miser pour la troisième place, au moins sur les Comores. Ayant suivi Madagascar en 2019, je sais ce qu'une équipe bien structurée, cohérente et bien organisée peut faire dans une CAN où ce n'est pas le lot commun des sélections alignées d'être organisé, d'être cohérent. Et sur quelques matchs, vous pouvez vraiment faire la différence dans les conditions particulières qui sont toujours celles d'une équipe qui dispute la CAN.
Et c'est vrai que les Comores ont peut-être ce petit avantage-là de jouer quasiment comme un club, en tout cas de se connaître très très bien depuis... Depuis 7 ans, ils le disent, ils le répètent pour avoir interrogé plusieurs joueurs ou l'entraîneur. C'est une équipe de frères, donc voilà, ce côté familial peut peut-être leur être bénéfique. Aux Comoriens, voilà, Podcast épisode 3, c'est terminé. Vous pouvez évidemment retrouver tous nos autres numéros concernant les autres groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations sur notre site rfi.fr et dans le flux de Radio Foot à l'onglet Radio Foot. Sur notre site, vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes de réécoute, les plateformes de podcast, Apple Podcast notamment, si vous avez trouvé aussi que notre casting 5 étoiles était à la hauteur. Vous pouvez noter l'épisode. On se retrouve bientôt sur RFI. Merci à tous de nous avoir suivis.